Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus Kikinkou, le magazine de la moto, tous les dimanches de 11h à 12h30. Nous sommes aujourd'hui le premier week-end du mois de mars et nous retrouvons nos amis motards engagés. On commence tout de suite avec Christophe, notre correspondant local du Motomag. Tu vas nous parler du Motomag du mois de mars, Christophe ?
Bonjour Locke, bonjour à toutes et à tous. Oui, mars numéro 428. Alors effectivement, premier week-end, c'est juste, hein, 1er mars. Hein,
ouais, donc, en plus. Mais ça va, nous, en tant qu'abonnés, on l'a déjà eu depuis une semaine.
Hein. Voilà, ouais. Alors je rappelle que si vous êtes abonné, vous recevez le mag du mois, 15 jours avant à peu près. Donc effectivement, quand l'actu est là, bah, ça décale un petit peu. Donc on parle du Salon de Lyon, mais le Salon de Lyon, c'est aujourd'hui. Donc,
C'est jusqu'à aujourd'hui.
Ouais, voilà.
Effectivement.
Donc oui, bah, je vous ai préparé un petit sommaire. Donc on est en début d'année. Je vais revenir sur le marché de la moto 2025. Et puis aussi la stratégie des marques, parce que c'est intéressant de voir il y a des gagnants et des perdants pour l'année. Et comment elles réagissent. Et puis aussi un petit retour sur les salons, puisqu'on y revient. On parlait du Salon de Lyon là en cours. Mais il y a eu le salon automobile, il y a eu le salon de Wascal, hein, on y était la semaine dernière, donc un petit salon, mais malgré tout, qui monte. Et puis, c'est pas le temps qu'ils ont pratiquement fait presque jeu égal, enfin moins que l'année dernière, mais l'année dernière, il faisait grand soleil.
Ouais.
Et cette année, c'était quand même plutôt.
Ah, ce sont des passionnés, donc c'est pas la pluie qui va les arrêter. Quoi.
Voilà, et pour parler de motos anciennes devant les motos, c'était mieux effectivement à l'intérieur. Donc voilà, je parlerai de ça donc, dans le premier sommaire. Ensuite, j'ai consacré un sommaire aux comparatifs qui sont présentés dans le Motomag, donc des catégories sport GT. On en parlera et on détaillera un peu. Et les trails néo-rétro avec la Scrambler 1200 de Triumph et la nouvelle R12 donc GS de BMW et pas Renault, hein, comme son nom pourrait le laisser penser. Voilà.
D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé R12 parce que ça ressemble pas du tout à la R12 qu'ils ont sorti, mais bon, c'est pas grave.
Oui, bon. Alors ensuite une rubrique consommateur. Alors ça tombe bien, la Scrambler étant en traction, enfin en motorisation et
chaîne
de distribution, chaîne secondaire pardon, à chaîne et pas effectivement
pas couple
conique à cardan. Et ben on demandera à Albert puisque Albert est propriétaire de la Scrambler 1200 et forcément comme je viens de l'indiquer. Doit entretenir sa chaîne, ce qui n'était pas ton cas. Et la Rocket 3, je me demandais...
C'est un cardan aussi.
Oui, pour prêcher le couple.
Ah ouais, 2500, ouais,
oui, vaut mieux, effectivement. Et puis, je garde le meilleur pour la fin, puisque c'est l'anniversaire, enfin c'était l'anniversaire l'année dernière, le 1er juillet 2025, des 70 ans de Yamaha, donc création de Yamaha. Donc je vous ferai une petite rétrospective genre Wikipédia d'un très gros article consacré.
Tu vas pas nous parler des 70 ans quand même.
Non, mais
les grandes dates. Tops et les flops aussi peut-être, non ?
Oui,
plutôt les tops.
Il y en a eu, mais effectivement, il y a toujours dans la vie d'un constructeur des tops et des flops. Hein, il suffit de regarder aujourd'hui.
Surtout Yamaha, ça a toujours été un constructeur très innovant.
Absolument.
Ça n'a pas toujours marché aussi.
Et c'est ça que je mettrai effectivement en exergue.
Ils ont sorti un 3 cylindres à l'époque où ça ne se faisait pas.
Absolument, mais il y a beaucoup d'innovations aujourd'hui qui sont généralisées, les cadres Delta Box,
le cantilever par exemple.
Le cantilever,
c'est qu'il
a
inventé aussi.
Absolument.
Ouais.
Donc on passera en revue un petit peu, pas de 70 ans, mais quelques étapes importantes de la marque. Yamaha, ceux qui connaissent la musique et le son, à l'origine.
Au trois diapasons, la marque au trois diapasons.
Voilà.
Parce qu'ils faisaient des instruments de musique.
Les pianos.
Notamment.
Et la moto n'est qu'une diversification. Mais quand on voit le travail accompli.
Dans un moment, dans l'article, ils expliquent que le département moto utilisait les ordinateurs la nuit parce qu'ils étaient utilisés le jour pour faire les instruments de musique. C'est rigolo.
Mais Kawasaki, c'est pareil. Hein. Kawasaki fabriquait des engins de chantier, des pelleteuses et autres, avant de se mettre à faire des motos.
Justement, j'en profite. Donc, on a aussi Jean-Yves, hein, notre motard engagé. Et toi, tu vas nous parler de... Tu vas faire le point sur la loi des ZFE, c'est ça ?
Oui, effectivement. Là, vu que ça a été assez mouvementé, je vais vous causer de l'état actuel sur la ZFE.
Pour pour l'instant, c'est reporté aux élections.
C'est reporté après les élections.
Présidentielles. Alors, présidentielles. on ne sait plus. Tellement il y en a.
On ne sait plus. Normalement, c'est municipal.
Municipal. Ah, d'accord.
Le problème, c'est que ça va risquer de.
De glisser encore.
D'être un point important pour les présidentielles et donc il risque de faire glisser ça encore. Je vais vous parler aussi de petits mouvements motards qui sont intéressants, qui ne sont pas forcément connus. Il y a le WIMA. Est-ce que vous savez ce que c'est que le WIMA ?
Alors, WIMA, c'est Women International Motorcycle Association.
Voilà, exactement. La WIMA qui est un équivalent de la FEMA, mais pour les femmes. Et qui a demandé à rejoindre la Fédération des motards en colère. On se renforce mutuellement vis-à-vis du Parlement européen par le nombre d'associations qui adhèrent dans un même but. Je vais vous causer aussi une petite association qui serait intéressante sur Discord, Avenir Motard. Il y a les assemblées régionales de la MUT, il y a stage AFDM bientôt, il y a un sondage E85, alors là je vous engage à le remplir parce que...
C'est pour savoir si on l'utilise ou pas.
C'est pour demander, oui, si on serait intéressé, les motards, de pouvoir mettre légalement un kit 85 sur nos motos. Et c'est bientôt Pâques. Et donc, préparez-vous à l'opération Nidpool, parce que des Nidpool, il y en a quand même un stock. Et donc, essayez de noter où ça le trouve et on fera une opération Nidpool un peu avant Pâques.
Avec la FFMC, c'est ça ?
Avec la FFMC.
D'accord, ok. Bon, voilà, c'est intéressant tout ça, ce programme, hein, c'est sympa. Et ben, on va finir le tour de table en citant à la technique et à la programmation musicale, Laurent.
Vous êtes bien sur Radio Campus. Kikinkou, le magazine de la moto, tous les dimanches de 11h à 12h30.
Sugar in my bow, fast cars and at the rock, backstabbing and
ça c'est du rock and roll sur Radio Campus. On est début mars et donc on retrouve notre correspondant local de Motomag, Christophe. Christophe, qu'est-ce que tu nous dis sur
Alors,
le Motomag du mois de mars?
On vous annonçait donc la séquence sur le marché 2025, puisqu'en fait les chiffres sont tombés. C'est d'ailleurs l'édito de Pierre Orluc, donc en première page de Motomag. Alors des chiffres européens, on a franchi le million de deux roues. Alors il faut savoir de quoi on parle, hein. C'est moto, scooter et autres cyclos. Parce qu'après, on peut trouver des stats, je vous les donnerai à la fin de la séquence, là, où on ne parle plus des cyclos, des 50 et autres,
que des motos.
Même des 4 roues, etc. Et donc, l'analyse, bah, elle n'est pas brillante. Effectivement, ce qui s'est passé, bah, c'est qu'il y a eu la norme Euro 5 au 1er janvier 2025.
Plus, que Euro 5 plus.
Euro 5 plus, oui. Enfin, la fin de l'Euro 5 pour l'Euro 5 plus. Et que bah, les marques se sont, et les concessionnaires se sont dépêchés de vendre les derniers modèles. Parce que normalement, ils ne pouvaient plus les vendre.
Ouais, ouais.
En tout cas, comme des véhicules neufs.
Ouais,
ils pouvaient les vendre après immatriculés comme véhicules d'occasion. Et donc, il y a eu un décalage important entre 2024 et 2025. Plus de 10 000 motos ont été additionnées fin 2024, qui fait qu'il y a eu, quand on compare les chiffres de vente de 2025, décembre 2025 à décembre 2024, moins 60% de vente sur le dernier mois.
Décembre, ouais.
Ce qui est considérable.
C'est artificiel, en fait.
Absolument.
Voilà.
Absolument. Alors, on regarde donc l'année complète. C'est l'Espagne qui s'en tire le mieux, hein, qui voit progresser donc ses ventes de 8,3%.
Normal, il fait du soleil là-bas.
Voilà. C'est l'Allemagne qui souffre le plus.
Ah, il fait un temps pourri.
Paradoxalement, moins 35%, ce qui est
ouais,
énorme.
C'est
alors,
énorme. Ouais.
On verra que ça, c'est pour les ventes. Mais en termes de marque, il y a une marque allemande qui tire bien son épingle du jeu.
Les Allemands, ils savent faire des motos. C'est nouveau, ça.
Plus c'est cher et mieux ça se vend, c'est ça?
Exactement.
Et c'est pas MZ. Bon. Et l'Italie qui maintient en fait ses ventes sur l'année. Et donc, ces chiffres-là. Alors, pour la France, effectivement, on est en recul de quand même 14%. Mais malgré tout, ça c'est le côté positif, c'est comme on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, on est supérieur avant Covid. Donc malgré tout, le marché de la moto est plutôt porté.
Oui, hein, c'est maintenu.
Donc il reste. Donc voilà pour les chiffres alors, au niveau européen qui sont indiqués par Pierre Orluc dans son édito. Alors moi, je me suis concentré aussi, j'ai été chercher les chiffres de l'année parce qu'on nous dit toujours « Ah ouais, mais les Chinois, bon, je voulais voir un peu ce qu'il en était ». Alors effectivement, dans les 10 premiers constructeurs de motos et de scooters en France qu'on trouve, il y a deux Chinois, Vosges et CF Moto, qui vendent donc plus de 3750 motos à l'année, qui est le cap. Ducati faisant exactement ce chiffre-là est dixième. Et donc toutes les marques qui sont au-dessus, CF Moto donc à 5800, presque 6000, qui double quasiment ses ventes par rapport à 2024, et Vosges qui fait plus 35% avec 3000, pratiquement 4000 motos.
Ouais, mais ils partaient pas beaucoup.
Alors,
aussi, c'est pour ça.
Alors on retrouve quand même dans les constructeurs les leaders que sont Honda, Yamaha, BMW et Kawasaki, et Triumph. Hein. On accueille Albert, là, dont je parlais tout à l'heure, qui vient d'arriver. Et donc, ces marques-là sont talonnées par CF Moto pour les ventes 2025 de chaque constructeur. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? En France, il s'est vendu 173 000 motos immatriculées, donc hors, je le disais tout à l'heure, cyclomoteur et 50 cm3. Mais sur le top 10, donc 10 des motos, elles représentent 130 000 de ces 173. Donc c'est pour vous donner le poids des ventes des motos. Et alors parmi celles-là, est-ce que, allez, petit jeu de questions, vous metteriez lesquelles? C'est assez aisé, hein, facile.
1200 GS.
Alors, 1300.
Ah ouais, pardon, excusez-moi.
T'as un train de retard.
Il y a même eu le 1250 entre deux.
Si à 40 ans, t'as pas eu un 1300, t'as raté ta vie.
Voilà. Et là où ils sont forts, c'est qu'en 2024, ils étaient déjà leaders avec la 1250 et la 1300 qui sortaient cette année-là.
Ouais.
Et que l'année suivante, bon, la 1250, on est passé maintenant à la 1300, ils arrivent quand même à faire encore 3681 immatriculations donc pour la GS. Mais si on rajoute la GS Adventure, on double quasiment. Pour arriver à plus de 6000 donc ventes de la 1300 GS.
Ah, tu vois plus que ça sur la route.
Voilà. Alors après, en deuxième, bon, on fait un tir groupé.
Chez Honda,
oui. Alors quelles sont les motos emblématiques chez Honda? La Hornet qui cartonne, oui. Qui arrive deuxième derrière la 1300 GS. Ensuite la série Tracer chez Yamaha, hein, donc la 9 avec toutes ses déclinaisons. Et puis, après, c'est pas une moto, c'est pour vous aider.
Un scooter. Un T-Max.
Un T-Max, oui, qui fête ses 25 ans cette année quand même.
Ouais.
Et donc, Ténéré. Qui reste,
Ténéré.
Alors, le Ténéré, effectivement, il est en milieu de tableau. Il est septième dans les immatriculations avec 2800 ventes. Et par contre, effectivement, le T-Max, il cartonne encore. Et ils arrivent toujours pas. Ils sont copiés, mais pas égalés. Hein. Ouais. Ils vendent 3050 motos cette année.
C'est vrai que dans les cités, ça va bien pour aller vite.
Ouais. Pour les livreurs, surtout.
J'étais en train de penser, il y a de plus en plus de groupuscules extrémistes. Effectivement, le T-Max est bien utilisé.
Quelle histoire. Et donc, derrière le T-Max, la Kawa Z900, la Ténéré, effectivement, Albert, 700 dont tu parlais, et puis on retrouve la MT-07, l'Adventure donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis encore dans les scooters ou les motoscooters, le Honda XADV, qui talonne effectivement le T-Max, mais qui est toujours un petit peu en retrait par rapport à lui, et le Forza 750 de Honda. Voilà, ça c'est le top 10 des marques. Enfin
C'est rigolo de voir que plus c'est cher et plus c'est en haut du classement. Quoi.
Alors oui, alors il y a un article effectivement qui est consacré à BMW et qui explique donc au niveau monde, BMW vend 200 000 motos. Hein, donc vous voyez, dont on va dire 6000 en France. Mais ce qui est impressionnant, c'est que le gros de leur vente, c'est la BM GS. Sur les 200 000, j'ai plus la stat, mais vous le retrouverez dans l'article qui leur est consacré. C'est assez impressionnant. Et le marché de BM, France et États-Unis, c'est à peu près pareil. Hein, c'est 14% au niveau de leur vente. Donc vous retrouverez cet article consacré à BMW. Là, les sorties que je viens de vous faire des top 10 donc des constructeurs et des ventes moto sur la France, c'est pas dans le mag d'aujourd'hui, mais c'est quand même des données qui sont intéressantes à exploiter dans le cadre de l'observation du marché.
Est-ce qu'il y en avait des GS au salon rétromobile?
Alors, il me semble pas. Par contre, on en parlera tout de suite après. Il y a effectivement les salons, tu fais bien de m'en parler. Je parlais du salon de Wascal d'Ancienne, Rétromobile qui vient également de se terminer, un salon d'Ancienne, mais
avec des électriques quand même. Hein.
Tu le faisais remarquer. Alors, il y a électrique et électrique. C'est-à-dire que effectivement, c'est incongru de trouver des motos neuves électriques là, mais la Trident 800. Elle était aussi au Rétromobile. C'est un modèle qui sort et qui fait l'objet d'ailleurs d'une présentation dans Motomag. Mais par contre, dans les rétrofits, il y avait des Solex et des Cyclos qui étaient présentés électriques.
Ouais, donc,
ce sont des modèles qui sont passés du thermique. Et bon, rétrofit, rétromobile. Ouais. C'est un peu tiré par les cheveux. Je vois Jean-Yves qui
oublie
du
chef.
Il y avait une Renault 5 aussi électrique.
Ah oui. Alors il faut dire que Rétromobile, c'est avant tout un salon
de la voiture.
Hein, 98% sont occupés par la voiture. Mais là, une place importante avait été faite, notamment à Ducati qui fête ses 100 ans. Et puis une rétrospective aussi. Steve McQueen, puisque s'il était un peu l'ambassadeur de Triumph, il a eu aussi ses emblèmes de marque autrement qu'avec Triumph. Donc il y a deux pages qui sont consacrées à Rétromobile et tout un dossier sur le salon de Lyon, donc, que je vous rappelle est en cours. Alors là, c'est un peu tard pour y aller. Hein, parce que,
il faut
trois jours pour le visiter.
Ouais.
J'ai vu qu'il y avait 155 000 m² représentant 24 terrains
de foot, t'imagines, hein, si tu le faisais en marchant, le temps qu'il faut.
80 expositions, un nombre aussi impressionnant d'animations diverses et variées.
166 000 visiteurs l'an dernier.
Voilà, je pense qu'ils cartonneront encore plus cette année. Et puis des têtes d'affiches en animation qu'on retrouvera au Salon de Douai.
Alors au Salon de Douai, ce qu'on va retrouver, c'est l'exposition sur les combinaisons GP. Voilà, ça, ils seront là. Et puis il y aura également la cascadeuse Sarah Lesito qui est au Salon de Lyon et qui sera également au Salon de Douai le 14 et 15 mars, le Salon de la moto des Hauts-de-France.
Vous nous y retrouverez. Vous retrouverez Moto Magazine, la Mutuelle des Motards, la FMC.
Et papy, tu pourras venir avec tes petits-enfants parce qu'on fait un concours de dessin et il y a un quad à gagner.
Ah, ouais. C'est bon à savoir. Ouais.
Alors, avec un tirage au sort, hein, bien sûr, le dimanche.
On fera appel à Constantin, l'annonceur emblématique, là, tout à l'heure, qu'on a entendu.
Ok.
À vous les studios.
On va passer un petit morceau de musique. Ouais. À tout de suite. We'll be right back. Vous êtes bien sur Radio Campus Kikinkou, le magazine de la moto. On est avec notre correspondant local de Motomag, Christophe, qui va nous parler et ses motos.
Voilà, alors chaque mois, c'est, je vous l'ai dit toujours, chaque mois, une quinzaine de motos qui vous ont présenté des nouveautés. Alors les journalistes de Motomag mouillent le maillot, hein, parce qu'ils vont sur le terrain. Ils se font prêter des motos.
On va les plaindre, c'est les mecs qui sont payés pour rouler à moto. Non mais ça va, ouais.
Oh. Mais là, ils sont quand même sortis au mois de janvier.
Ouais, bah écoute, hein, nous aussi. Hein.
Oui, mais en Espagne.
Et des motos.
Ouais, en plus, ils sont en Espagne.
Des motos non carénées. Non, pas du tout.
Ils
étaient en Bourgogne. Ouais, et puis, ouais. Dans le pays d'hôtes. Alors justement, deux catégories intéressantes parce que finalement, c'est des catégories pas nouvelles. Il y en a une probablement. Alors on va commencer par celle-là, les trails néo-rétro. Alors, titre, plaisir irrationnel. J'avoue que j'ai cherché un peu.
À quoi ça sert de faire un trail qui vaut 18 000 euros, qui est magnifique, par exemple la Triomphe, hein,
oui,
d'accord,
oui.
Elle est magnifique, d'accord. Mais comme si tu vas faire du tout terrain avec ça, tu l'as fait tomber, tu vas pleurer parce que tu vas faire une rayure sur ton magnifique pot d'échappement là. Hein,
ça tombe bien. On a dans notre équipe un utilisateur de longue date. Hein, ça fait Albert. Ça fait combien de temps que tu l'as la tienne?
Ça fait 4 ans maintenant que je roule avec la Triomphe.
C'est pas
200 000 km.
50 000.
C'est pas le modèle. Enfin, il s'en rapproche. C'est le précurseur du modèle qui est présenté.
À l'époque où j'ai effectivement craqué, il y avait le 1200 XC, donc Scrambler, et le 1200 XE. XE un peu mieux équipé, avec une partie skill un peu différente, un tout petit peu plus haute. Maintenant, l'équipement était quand même au top. Puisqu'on avait du Brembo, du Hollins, enfin bref, vraiment que du beau matériel, un bras aussi en alu, des pots inox, enfin bref, c'est plutôt pas mal. Et aujourd'hui, le XC, celui que j'ai, n'existe plus. Il a été remplacé par le X, avec un champ d'équipement un peu différent. Alors on n'est plus sur du Brembo, on est sur du Nissin, etc. Mais pour autant qu'il reste de qualité. Hein, on va pas se mentir qu'il reste de qualité. C'est juste que Brembo a des lettres de noblesse. Effectivement, quand on dit Brembo, on pense effectivement aussi au passé. Pour quelque chose qui est néo-rétro, c'est plutôt pas mal.
Ouais. Ça reste c'est une moto de voyage.
Moto de voyage, quand tu la vois comme ça, on dirait plutôt un roster sur échasse. Quoi, si tu veux. Un Scrambler, au départ, c'était quoi? C'était des routières qu'on surélevait pour pouvoir faire du tout-terrain.
Tout à fait.
Oui, alors c'est l'usage auquel... on a eu l'occasion de rouler ensemble sur des routes. On est peut aller dans les chemins, mais elle a peut-être...
Il a fait le désert des Bardenas,
c'est vrai. J'y pense en le disant.
Oui, alors c'est effectivement elle a des qualités de routière qui sont vraiment indéniables, hein, on peut pas y échapper. On a du couple en bas, on a de la longe, etc.
Le moteur est formidable.
Et en plus, une moto très confortable, on va pas se mentir, avec des battements énormes, donc forcément les bosses, etc., tout est gommé. Après ça, effectivement, on peut sortir du macadam et se retrouver dans un petit chemin caillouteux, etc. On a quelques souvenirs dans le désert de Monegro, justement, effectivement on se dit, oula, comment on coupe l'ABS, parce qu'effectivement ça donne des choses assez surprenantes sur le moteur. Mais par contre, la partie cycle absorbe complètement et vraiment on s'en sort très très bien. Après, j'irai effectivement pas sur un terrain de cross, c'est évident.
Oui, c'est évident,
mais par contre, le chemin est tout à fait possible.
C'est une des qualités qu'on lui trouve et qui est mise en avant dans l'article. Donc, face à la R12 GS, puisque c'est quand même un comparatif.
Ouais, c'était une voiture, moi.
D'ailleurs, de chez BMW.
D'ailleurs, ils ont pris le modèle sable qui est moche comme tout, parce que ça correspond pas du tout au côté emblématique, enfin rétro de la GS. Elle était blanche et bleu, je crois, si je me souviens bien.
Oui.
Ouais.
Alors, elles ont un point commun, tu parlais du tarif, c'est qu'effectivement, elles émargent toutes les deux autour de 17 000 euros. Sauf que sur la BMW, t'as un paquet d'options qui va tomber derrière. Je voyais sur d'autres références, c'est quelquefois 30, voire 40% de tarifs en plus. Bon, enfin, là, on parle que de l'équipement de série. Et donc, paradoxalement, c'est la Triomphe, effectivement, qui reste la plus confortable. Quoi.
Je ne sais pas, je n'ai pas essayé la BM. En tout, j'ai roulé beaucoup en BM, mais pas en tout cas avec celle-ci.
Oui, mais David Locke, BMiste...
mais le Triomphe, effectivement, il est vraiment fantastique.
Ce qui fait vraiment la différence, c'est le moteur. Le bicylindre qui allait à 270 degrés de la Triomphe, il s'exprime. Quoi. En plus de la sonorité, qui est vachement sympa, à côté de l'Euro 5 Plus du BM, qui est un peu efficace mais mou, quoi.
Comme il dirait à la linéaire, télé, comme il dirait à la télé, il est plein partout en fait. Il y en a en bas, il y en a en haut. Franchement, il est utilisable sur toute sa plage, que ce soit de 2000 tours à ses 7500 tours. T'as de la puissance partout et c'est vraiment agréable. Sur petite route, c'est que du bonheur.
Ah, puis t'as envie de remettre les gaz à chaque fois, quoi.
Oui,
tellement ça.
Tout à fait.
Tu fais de la musique, tu vois, en tournant la poignée, tu fais de la musique avec.
Tout à fait.
Alors, c'est un mélomane.
Elle est appelée à être renouvelée ou tu es destiné plutôt à la garder?
Il réfléchit.
C'est compliqué.
La question qui tue.
Après, je pense qu'on est tous un peu pareil en tant que motard. On aime bien nos motos et on a du mal à en changer. Après, on s'aperçoit que ça vieillit, ça prend du kilométrage, etc. Et on se dit, allez, c'est peut-être l'occasion de changer, de passer à autre chose. Alors oui. Je vais vous faire bondir. J'ai essayé une chinoiserie.
Non.
Et comme certains motards peuvent le dire, moi j'en reviens. Je me dis effectivement c'est pas des mauvaises machines pour avoir essayé effectivement une Vosges. Je ne dirais pas licence Super Rally. Écoutez, avec un moteur qui était effectivement finalement aussi plaisant que mon Triumph, une partie cycle pareille. Et alors encore une fois, la force de ces Chinois, c'est qu'elle est vendue toute option.
Ouais.
On n'achète rien derrière.
Ah ouais.
On a des poignées chauffantes, on a une selle chauffante, on a un porte-bagages, on a une béquille centrale. Enfin bref.
Avec un tarif compétitif en plus.
Et un tarif effectivement défiant tout ce qu'on.
Mais ça coûte moins cher de faire travailler des enfants aussi, peut-être, c'est pour ça.
Oui, c'est ça. C'est ça. C'est
c'est pas les tiens.
Les 8000 balles de différence sont là.
Non, je plaisante, c'est l'automatisation aussi qui est utilisée à outrance.
À titre, j'en profite pour rappeler un chiffre que j'ai pas dit tout à l'heure. Je vous ai parlé des ventes de véhicules neufs, de motos neuves, mais en vente d'occasion, donc le marché du 2-roues et du 3-roues, c'est 763 000 ventes en 2025.
Ah oui, quand
même. En recul de 3% par rapport à 2024. Donc ça reste très soutenu.
Parce qu'il y a moins de neuf, donc il y a moins de marché d'occasion, c'est ça?
Non, ça reste soutenu, le marché.
Ouais.
La preuve, c'est qu'on venait d'en discuter. Tu renouvelles ton parc moto personnel, tu vends de l'occasion et tu rachètes de l'occasion. Donc. Ta Triumph, tu l'as acheté d'occasion.
Oui, bien sûr.
Ah
oui,
et tu rachèteras probablement pas du neuf.
Ça dépend.
Les Chinoises font les yeux doux.
Mais les Chinoises sont au prix de l'occasion, en fait.
C'est ça le truc.
C'est ça.
Non, de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Ceux qui ont connu l'épopée des années 70, les Anglaises.
Avec les Japonaises.
Quand les Japonais sont arrivés, ils étaient plutôt dénigrés. Ouais, et puis finalement, ça y est, les maîtres du marché, dans 10 ans. C'est l'industrie chinoise taillera des croupières à BM, Honda et tout le reste. Hein.
Oui.
On voit déjà, on parlait tout à l'heure dans les marques Harley, qui est quand même en grande difficulté,
qui est
obligé maintenant de faire des motos d'entrée de gamme. Ils vont sortir une 400 cm3, ou ils l'ont peut-être déjà sorti. Mais
c'est pas
la politique d'Indian. Hein. Mais ils sont mal, effectivement.
Ils auraient jamais dû arrêter les sportifs.
Moi, je voudrais, avant de rendre l'antenne pour la séquence, évoquer le traitement du dossier consommotard relatif à l'entretien des chaînes. Parce que j'ai le plaisir, ici on est tous équipés de motos à cardan, mais pour une fois qu'on en a un, qu'on tient.
On dit tout le temps, quand il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir. C'est vrai.
Exactement. Les chaînes, après voilà, aujourd'hui c'est toujours pareil. On parlait des années 70, nous sommes en 2026. Il y a quand même une grosse évolution avec des chaînes qui sont vraiment de qualité, des joints O-ring qui ont quand même fait beaucoup pour la lubrification, éviter l'usure prématurée, des maillons au secours. Hein, c'est plus les chaînes qu'on utilisait dans les usines, hein, c'est bien des chaînes de moto. Avec des chaînes vraiment très avec des maillons très très gros, avec quasi pas d'entretien. Après, il faut faire attention, il faut surveiller.
Ouais,
mais
c'est là le problème.
Je peux vous raconter une toute petite anecdote. C'est en fait, je graisse ma chaîne et au Maroc, j'aurais pas dû. Parce que la graisse et le sable,
ça se colle assez bien
et c'est pas tip top. Voilà. Donc après, il y a des précautions comme ça à prendre. Mais moi, très clairement, je l'attends une fois tous les 1000 bornes, si ce n'est plus, parce que après, il y a pas de secret. Une chaîne, on a tendance à trop tendre.
En général, les gens ne savent pas comment tendre une chaîne.
Voilà, alors oui.
Ils disent, ah, il y a des battements de 25 à 30.
Je peux vous parler des précautions à prendre, effectivement. Je ne sais pas si c'est tout de suite dans cette séquence-là, mais, voilà, mais il faut y faire attention. Effectivement, quand on tend une chaîne, il faut qu'elle soit sur ses roues. Il faut pouvoir effectivement bloquer, avancer un peu la moto pour être sûr. Parce qu'on fait un point.
Il faut un CAP mécanique.
C'est un tuto. Mais c'est des tutos qu'on trouve certainement sur le nouveau site, on le trouvait sur l'ancien site de Motomag, vous irez voir.
Il est partout, Motomag.
Mais par rapport au sujet, par rapport au sujet du Motomag, parce que je suis quand même chargé.
Bien sûr, bien sûr.
Et je suis payé pour ça, bien faire sûr. Le sommaire.
Peut-être pas beaucoup payé quand même.
Non, hein. Bah non, non.
Bien sûr.
Non, mais c'est de l'humour. Hein.
Un paquet de gaufres tous les ans.
Bon, ça ne fait rire que moi. Hein. Bon, le comparatif, en fait, des dégraissants, nettoyants, est-ce que parmi ceux-là, il y en a que tu utilises?
Tu la dégraisses quand même, des fois, avant voilà. De la régresser, non?
Oui, oui, tout à fait.
Oui, oui. Hein, parce qu'en fait, le comparatif, c'est des nettoyants pour chaîne.
Voilà.
On ne parle pas de la lubrification.
Voilà. Mais il conseille de dégraisser tous les trois graissages.
C'est ça, parce qu'effectivement, après, on a un agglomérat. C'est un peu comme une graisse à frire. Hein. c'est comme toute chose qu'on utilise comme ça. C'est effectivement, à un moment, on a un conglomérat avec de la poussière, etc. Et ça, il faut le nettoyer. Et les dégraissants, effectivement, sont aujourd'hui très efficaces. On vaporise, on peut brosser un peu, etc. Mais effectivement, toute la cochonnerie s'en va. On revient sur une chaîne d'origine neuve. J'ai envie de dire qu'il sort du paquet. Et là, on graisse ou on huile ? Chacun s'y retrouve par rapport à ça. Encore une fois, ça dépend d'utilisation.
On m'avait dit,
conditions.
Je demande à Jean-Yves, on m'avait dit une fois que la graisse faisait que la chaîne s'allongeait plus vite qu'avec de l'huile. Non,
non.
Non, c'est pas possible.
Non, non. Non, non, l'essentiel, c'est que ce soit lubrifié de toute façon.
Un corps gras, quoi. Que ce soit de l'huile d'olive, ça va aussi bien.
Par contre, pour simplifier l'entretien, c'est les graisseurs automatiques qui sont très intéressants.
Ouais, ouais, ouais.
Parce que tu peux régler goutte à goutte, laisser tomber une goutte toutes les 30-60 secondes, et là, ça suffit largement.
Oui, mais ça existe encore, ça.
Ça se fabrique facilement.
Ça avait été présenté.
Ouais. D'accord.
Et donc, sans annoncer de quelque marque que ce soit, moi, dans l'explication que tu viens de donner, Albert, je retiens qu'il y a des dégraissants qui décrassent et d'autres qui ne décrassent pas. C'est-à-dire que si
c'est
vous...
embêtant, ça, pour un dégraissant.
Non, mais c'est qui dissout les matières solides, c'est le décrassage. Le dégraissant, il est là. Donc, certains produits, pas forcément les moins cher, hein. Il faut passer une brosse, quoi. Voilà.
Ok. On passera la brosse alors. Hein, Albert, tu passeras la brosse.
C'est mieux.
On va peut-être passer un petit morceau de musique, nous, en attendant de passer la brosse.
Oui,
d'accord.
La musique.
Allez, à tout
de suite.
Bah, j'adore la musique sur Radio Campus. Kikinko, le magazine de la moto. Ça, c'est du rock'n'roll le dimanche matin. Ça vous réveille. Laisse tomber. On est toujours sur le Motomag avec notre ami Christophe.
Oui, et le son des motos aussi. Hein. Il y a la musique des échappements.
Oui. Absolument. C'est absolument. Bah, je parlais tout à l'heure de la musique du Triomphe, là, du 200 Triomphe.
Voilà. Alors, je ne sais pas si celle-là, parce que finalement, on a rendu l'antenne tout à l'heure pour écouter la musique. Je parlais du comparatif sport GT, hein, donc une catégorie particulière. Bah, est-ce que tu as eu une 1100 RS?
J'ai eu un 1200 RS.
Un 1200 RS. Alors, puisque en fait, la précurseur.
C'est un BMW pour les
voilà, du modèle présenté.
Avec le moteur boxer.
La R1300 RS, voilà. L'aînée, elle vient de la R1100 RS et de ses évolutions.
Ouais, tout à fait.
Et puis, devant elle, elle avait souvent une Kawasaki. Donc, du temps de la 1100 RS, c'était la Kawa 1100 ZZR. Et aujourd'hui, la R1300 RS donc de chez BMW s'oppose à la japonaise Ninja 1100 SX SE. Il faut savoir.
jusqu'au bout. Des noms de moto maintenant.
Oui, mais non, mais SE, c'est pour spécial édition, c'est pour
Parce que Triomphe avait été champion. Je me souviens quand ils ont sorti la 1200, ils en avaient tellement mis des X, XC, X.
Il y avait des versions.
On s'y perdait. Bon, enfin, voilà. Donc, je ne rentre pas dans le détail. Vous retrouverez donc cette catégorie.
On dit quand même que la BM est moins confortable que la Kawa. Franchement, on aura tout vu. Moi, je dis tout fout le camp. Tout fout le camp.
Bon, mais ça n'empêche pas d'être
leader. Parce que, en fait, c'est quand même ce qui faisait aussi sa réputation chez BM. Enfin, quand on parle des ancêtres, hein, des vieilles BM, des flats, etc., c'était effectivement ce confort. Alors là, c'est pas pour rien que les flics avaient ça, mais il y a d'autres raisons. Mais ouais. C'est vrai qu'ils s'en plaignaient pas au niveau confort.
Ouais. Alors, excellente transition, tu parles de moto de flic, ça a été BMW.
Oui,
mais pas que.
Il y a eu avant.
Ils ont perdu un marché. Et qu'est-ce qui a pris le marché?
Yamaha.
Avec la FJR 1300. Mais avant d'en arriver là.
Oui, on en voit pas mal.
1200 FJR.
À l'époque.
Ouais, des 200,
bon, enfin, peu importe, enfin, bon. C'est la saga FJR. Mais bien avant, effectivement, je disais tout à l'heure en ouverture d'émission, Yamaha fête ses 70 ans. Et donc, 70 ans de Yamaha, c'est quand même une saga impressionnante. Donc, tu parlais du logo donc, de la marque.
Les trois diapasons.
Les trois diapasons. Alors, la marque Yamaha...
Des pianos aussi, hein.
Oui, c'est ça. Au départ, ils faisaient des instruments de musique.
1898, c'est en 1927.
C'est pour ça qu'il y a trois diapasons sur le.
Voilà. Tout à fait.
C'est en 1927, donc, qu'on voit de diversification. Ils commencent par produire une première moto, une 125. Et c'est le début en fait d'une grande aventure qui va amener dans les années 50 de rechercher à développer d'autres modèles. Donc la demande étant forte et surtout les résultats en compétition s'avérant tout à fait positifs, ils vont continuer à produire. Alors de quelle marque européenne les Japonais se sont-ils inspirés?
Les Allemands de départ.
Voilà. Et la DKW. Donc, ils ont pris une DKW RT125. Ils l'ont...
copié.
Déshabillé, si on peut dire. Et puis, ils en ont sorti leur premier modèle par qui tout est arrivé, l'YA1. Et celle par qui tout commence. Et donc, à l'époque, c'est 274 salariés. Et c'est surtout le développement en fait, d'autres modèles qui vont ensuite être alignés sur des compétitions qui va faire le succès de la marque. Hein. Donc la YK a gagné une victoire sur le Mont Fuji et puis derrière va se dérouler toute une série de gains et de lauréats de pilotes avec donc des marques, enfin des modèles qui vont être développés. Alors, je vous passe les détails. Hein. La YC1, on arrive en 1957. Et c'est là où, Luc, tout à l'heure, tu évoquais précurseur. Effectivement, dans beaucoup de domaines techniques, Yamaha a été le précurseur de techniques qui, aujourd'hui, nous paraissent vraiment familiers. Donc, 1957, excellente année, n'est-ce pas? Premier bicylindre de temps.
On se demande.
Premier bicylindre de temps La première moto, donc en 1959 également, à être équipée d'une boîte de vitesse à 5 rapports. Donc vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui les 5 vitesses. Et donc, ensuite, les titres mondiaux vont s'enchaîner pour Yamaha, donc 1964. Ils équipent aussi, ils créent dans les années 60 le premier scooter, donc un bras oscillant arrière, un à l'avant également, un démarreur électrique et une boîte de vitesse à deux vitesses avec convertisseur de couple et transmission finale par cardan.
Piaggio n'était pas encore sur le coup.
Bah écoute, non, visiblement.
Ouais, je suis super étonné, parce que j'ai l'impression que ça a toujours existé.
Alors, non, peut-être par pas contre, avec cette technologie-là.
C'était toujours du deux temps.
Voilà, alors on est toujours en deux temps, effectivement. Et donc, ils alignent à partir de 64, avec Phil Reed, donc, qui gagne en 250, des prix en 125, 4 titres mondiaux, en 250, 14, en 350, 4. Et en 500, 10. Vous voyez, et après, les MotoGP, 8. Donc, ça leur fait quand même une bonne série. Donc, en 1965, ça ne nous rajeunit pas, la YM1 est la plus grosse cylindrée développée sur le marché. Son deux temps développe 27 chevaux.
Wow. Une bombe.
Ça, je me suis demandé s'il n'y avait pas une faute de frappe. Et non, et donc vitesse annoncée de 160 km/h. Donc vraiment assez impressionnant. Et puis
pour l'époque,
effectivement. Je rappelle 1965. Et puis après, le développement commercial va s'effectuer en Europe. Et donc Yamaha Motor Europe va être créé avec l'arrivée donc de modèles pour conquérir le marché européen. Alors. En 67, Yamaha développe sa première 350. Et là, on va avoir toute la série des RD, la fameuse RD 350, qu'on pouvait voir probablement. Il y en avait une, au moins je sais d'où elle vient, sur le salon de Wascal le week-end dernier. Et donc, vous avez toute la série donc, des RD, la RD 350 LC. Et puis en course, les TZ 250, 350, 750, également 500 à deux temps. Donc l'évolution de ces modèles vont arriver dans les années 70 à la création donc, du premier 4 temps. Et là, c'est une autre évolution. Donc les séries XS, donc dans les années 70, bicylindre parallèle de 650 cm3 à arbre à cam en tête. Et puis vous avez la série des XS spéciales, premier modèle custom. Donc vous voyez, ils sont premiers un peu partout. Premier de la classe, la XS 150.
Et les autres constructeurs japonais ont suivi le pas finalement. Ils ont aussi fait des séries, comme en Belgique on dit ça, les douchoppers. C'est les custom en fait.
D'accord. Voilà, donc la fameuse série. Et puis,
tu sais que Laurent, il a eu un 650 XS spécial.
Oui, j'en ai entendu parler. Je ne l'ai jamais vu, mais j'en ai entendu parler.
Au départ, c'est une copie d'anglaise, quand même. Je dis ça, j'ai rien.
Très largement. Oui. C'est comme la Kawa W, machin.
Complètement. C'est une copie. Ouais. C'est une belle copie.
C'est une honte de copier comme ça.
C'est joli.
Et avant la Rocket 3 donc, de Triumph, ils ont été également les premiers à présenter un custom avec un gros V-twin sur le marché, un 1600 cm3. Et donc là, on est à la fin des années 70. Après, donc la XS, elle va aussi se décliner en 750. Et puis, vous avez la série TX. Ouais. Donc la TX 750, bicylindre parallèle, premier modèle Yamaha équipé de deux arbres à cam en tête. La TX 500. Alors, elles n'ont pas brillé, celles-là, parce que visiblement, elles étaient nées
pas très fiables.
Avec des problèmes de fiabilité, comme tu le dis. Et puis, la XS750, dont je viens de parler, qui apparaît en 1976, premier 3 cylindres de Yamaha. Donc, qui cartonne. Alors la XS750, mais la 1100.
Ah, surtout la 1100.
La 1100.
On se souvient tous.
Avec son cardan.
On se souvient tous de Jean-Claude Olivier, en pantalon tergal, en train de faire une roue arrière sans casque.
Ça, c'était sur la VMAX.
Non, c'était le 1100 XS.
C'était le 1100.
Ah, absolument. Ouais.
Et pourtant, l'IA n'existait pas à l'époque. Et donc, c'est pas une tricherie. Parce que pour lever un 1100 XS,
C'est parce que les journalistes, ils lui ont dit, ouais, ton truc, il est super gros, il est pato et tout, même le
look. C'est un rare passé.
Donc il dit, ah ouais, elle est lourde ma moto, et ben voilà.
Mais ça a eu un grand succès chez les sidecaristes, parce qu'elle avait quand même le couple en bas.
Ouais, puis avec le cardan, le gros réservoir, pour rouler, c'était impeccable.
Alors après, vous avez toutes les séries, alors maintenant, ça va vous être plus familier, les XJ.
Ah, XJ.
La première, la 600.
Et c'est eux qui ont créé aussi cette catégorie 600 intermédiaire.
En 84, effectivement, donc ça devient le cœur de marché finalement avec les mid-size. Ouais. Et puis la FJ, qui commence en FJ 1100,
la 1200,
la 1200A, la 1300, l'ABS.
Avec des innovations, j'ai le droit de le dire. Parce que sur la 1200 FJ, moi j'ai un avant de 1200 FJ sur une Harley. Et en fait, c'était une des premières qui faisait un système avec le freinage où tu réinjectais au niveau de la fourche et tu durcissais la fourche. Ce qui était très bien pour mon Harley qui fait 280 kg. Quand tu freinais, plutôt que de t'enfoncer dans la fourche, et ben effectivement, tu durcissais. Donc voilà, des petites innovations comme celle-là. On est passé à côté parce qu'elles ont été abandonnées,
mais pour autant,
qui étaient plutôt utiles sur certains modèles, notamment sur le mien.
Voilà, première moto japonaise, donc la FJ1200A dont on parlait à l'instant, 91, à être équipée d'un ABS. Alors BMW avait déjà entrepris la chose. Et puis donc la FJ devient diversion. Donc la 900 diversion, une bonne moto de route effectivement pour partir en voyage. Et puis l'emblématique XT500 avec toutes les déclinaisons. Alors c'est le premier Paris-Dakar, deux premières victoires du Paris-Dakar par Cyril Neveu avec cette machine. Et puis toute la déclinaison qui a suivi derrière. Un secteur de moto était né. Également avec les Ténéré.
Premiers 600 Ténéré, démarrage à kick encore. Moi j'ai eu un premier 600 Ténéré, il n'y avait pas de démarreur électrique. Après on est passé au démarreur électrique, ce qui est plutôt pas mal.
Parce que ça ne démarrait pas toujours du premier coup.
Ça a évité effectivement de se faire mal au mollet. Mais voilà, et pour arriver aujourd'hui à cette Ténéré bicylindre qui est quand même autre chose.
Oui, alors on a parlé tout à l'heure du système cantilever, aujourd'hui qui est adopté par toutes les marques quasiment. Ils ont été précurseurs. Et puis le V2, le fameux V2, donc le bicylindre en V, 4 soupapes, pareil, double arbre à cam, les moteurs turbo. Enfin, c'est toute une kyrielle d'innovations qui vont ouvrir donc des marchés et des séries, la XV, la 535 Virago 1986. Vous trouverez en fait dans l'article jusqu'à aujourd'hui avec, alors là on est un peu sur les tops, mais quand même des flops.
Ah bah oui.
Pour avoir eu un commerçant à côté de chez moi qui l'avait, la 1000 GTS, qui était vraiment novatrice avec son système Omega.
Avec un bras aussi en avant, c'est ça ?
Absolument.
Un à l'arrière et un à l'avant.
Voilà, qui avait le moteur de la FZR 1000 et donc qui a malheureusement peu fonctionné. Alors, ils se sont rattrapés avec le scooter dont on parlait tout à l'heure, quelques années après. Je vous rappelle, 25 ans du T-Max. Et surtout la V-Max, donc
V4. C'était pour le marché américain à l'époque.
De 120, 120 chevaux.
Avec le turbo.
La V-Max ?
Oui, ouais, il y avait un turbo. Il y avait un kit turbo qui était vendu avec aussi.
Possiblement. Voilà, donc vous retrouverez, c'est un dossier très complet, énormément de photos, des illustrations aussi de design de moto.
Et si vous avez le temps, vous pouvez encore voir l'expo au Salon de la moto de Lyon, ça se termine ce soir.
Oui, et j'ai encore pas parlé des séries R, donc des motos d'usine quasiment que vous retrouvez sur la route. Donc Yamaha, vraiment une marque à suivre.
Bah, 70 ans d'innovation.
Ouais, quand même.
Et d'évolution.
Ouais. Merci Christophe. On va passer un morceau de musique et après, on va retrouver notre ami Jean-Yves de la FFMC.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Kikinkou, le magazine de la moto, et on retrouve notre motard engagé Jean-Yves de la FFMC qui va nous parler des ZFE, des zones à faible émission.
Oui, effectivement, on se croyait libéré de cette abomination, mais ce n'est pas le cas parce que, pour rappel, les députés et sénateurs, sous la pression de leurs électeurs, je présume, ils veulent conserver leur place, donc on les comprend, les places sont agréables, on discutait de la suppression des ZFE, et il y a eu un vote, effectivement, députés et sénateurs, par 50 voix contre et plus de 90 pour, ouais, ont voté à la suppression des ZFE. Mais le problème, c'est qu'ils devaient voter le projet de loi le 27 janvier. Deux jours plus tard, le gouvernement s'est dit « Aïe, 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 je vais me choper les écolos sur le nez. Donc, on va remettre ça plus tard. » Stratégiquement, ils ont choisi de remettre ça plus tard, les municipales, qui auront lieu à la fin du mois de mars. Donc, il y avait quand même une unanimité pour supprimer ces fameuses ZFE qui, rappelons-le, ça se traduit par zone à forte exclusion sociale.
Ouais, c'est surtout ça le problème. Ouais, ouais.
C'est pour ça que sénateurs et députés ont finalement reconnu que s'ils voulaient garder leur poste, il fallait quand même écouter un peu de temps en temps ces électeurs. Alors, on se dit...
Surtout que si t'as un gros 4x4 qui pollue bien, mais qui est de dernière génération, t'as le droit de rouler avec. Voilà. Alors qu'avec ta moto, par exemple, parce qu'elle est de telle année, tu peux pas.
Et tu peux pas, effectivement. Alors, le problème, c'est qu'on peut se dire, il va y avoir une secousse politique très forte, donc ils vont peut-être, persister dans la voie de la suppression des ZFE. Mais, n'oubliez pas ce qui s'est passé pour le contrôle technique moto. les associations Respire, Paris sans scout et tout le bazar là, qui couchent avec le Conseil constitutionnel. Eh ben, ils ont réussi à convaincre le Conseil constitutionnel.
C'est pas beau quand même.
Non, mais ça, c'est la politique, hein. C'est humain. Donc, avec toutes les faiblesses inhérentes. Donc, on est encore, on n'est pas à l'abri d'une encore une interpellation de ces associations qui sont minuscules, qui sont parisiennes et qui n'ont rien à foutre du reste de la France, de ressaisir encore le Conseil constitutionnel. Et les lois européennes étant ce qu'elles sont, ils ont une chance de quand même gagner. Donc c'est une affaire, on se croyait libéré, mais non, il faut rester vigilant. Et donc à chaque fois vous pouvez exprimer votre opposition aux ZFE, faites-le. Alors justement, pourquoi faites-le ? Vous avez une occasion en or qui sont les municipales.
Ah oui,
qui sont bientôt. Alors, je vous l'ai déjà dit, les modes d'expression de la FFMC ont un peu changé parce que la manif, finalement, ça fait plaisir aux manifestants, mais il n'y a que ça fait plaisir et c'est plutôt, ça dessert plutôt. Donc maintenant, la politique, il suffit de voir ce qui se passe à Strasbourg ou au Parlement européen. Ce qui compte, c'est le lobby. Et donc, ce qu'il faut, c'est faire des lobbies pour défendre la moto.
Tu nous avais parlé une fois, je crois, du manuel du lobby, un truc comme ça.
Oui, la dernière émission, j'avais fait le manuel du boycotteur de CT.
Parce que nous aussi, mais nous aussi, on peut devenir des lobbies.
Il faut absolument qu'on devienne lobby. Si on n'a pas de lobby au Parlement européen, on est mort. Parce qu'on ne sera jamais entendu. Déjà comme ça, avec un lobby, on est assez peu entendu. Donc, profitez des municipales pour interroger vos candidats et leur demander quelles sont ses positions sur la moto. Hein, parce que rappelez-lui que ça fluidifie le trafic. Si 10% de motos en plus, c'est 40% de bouchons en moins, alors, etc., etc.
On est obligé de rentrer effectivement dans la politique. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu parles de municipales, c'est que les communes ne font pas forcément ce qu'elles veulent. À partir du moment où on appartient à une métropole, et il y en a quelques-unes, on en fait partie, tu ne décides pas de tout. Et ce qui veut dire que c'est pas le maire, c'est pas la municipalité qui va décider de ça sera comme ça ou autrement.
Non, mais les maires, ce sont aussi des élus qui votent pour d'autres élus après aussi, hein. Donc ça peut être important.
C'est pour ça que justement, il faut, maintenant la manif moto, ça fait plaisir, mais ça sert plus à rien. Ce qu'il faut, c'est faire du lobbying. Donc, et c'est pour ça que je parlais en introduction de la WIMA. Ça fait un organisme de motards en plus qui rejoint la FEMA et donc la FFMC et donc
et c'est vraiment c'est vraiment une association internationale.
Oui, complètement. D'accord. C'est comme la FEMA.
D'accord. Et t'as des représentations en France ? T'as des bureaux, je veux dire.
Là, il suffit de chercher sur Internet.
D'accord, on regardera.
De plus en plus, de toute façon, nous jouons dans les stages AFDM, on a quasiment 30% de motards. Et donc, effectivement, il y a de plus en plus de motards qui suivent des formations et intelligentes.
Et qui sont représentés dans ces associations-là, quoi.
Oui. Mm-hmm. Un truc aussi qui peut être un peu utile, c'est... il fut un temps où l'esprit motard, c'était la solidarité, c'était l'entraide et autres.
Ah, ça existe encore.
Oui, j'allais dire, quand même.
Ça existe encore. Mais justement, pour ceux qui sont férus de technologies récentes, sur Discord, moi j'y suis pas, mais il paraît qu'il y en a beaucoup, il y a une section qui s'appelle « Avenir motard ». Justement pour mettre en relation les motards qui ont besoin d'un coup de main ou qui peuvent donner des coups de main.
Pour bricoler, c'est ça ?
Oui, pour n'importe quoi ou des conseils de vêtements, de n'importe quoi. Donc, si vous êtes...
Oui, c'est pas un club de rencontre. Hein.
Non, normalement, non.
Je savais que ça te ferait rire, Luc.
C'est quoi Discord ?
Justement, c'est pour ça, Discord.
C'est un peu comme Facebook ou bien Instagram.
Quand t'en as marre de ta femme, tu vas sur Discord. Tu te prends la tête, et ben tu vas sur Discord et tu vas rencontrer d'autres motards.
C'est un truc comme Instagram ou Face Debout.
Ah, c'est un réseau social,
voilà,
en fait, c'est
exactement.
Ça.
Exactement.
Okay. D'accord.
Oui, j'avoue que le nom est très mal choisi, mais bon.
Ou c'est peut-être fait exprès, va savoir.
Bah, c'est ça. c'est la question que je me posais.
Alors, il y a un truc intéressant aussi à savoir, c'est que, justement pour vous dire que la FFMC s'oriente de plus en plus vers le lobbying, c'est qu'elle a été auditionnée par le Sénat pour la cohabitation des usagers de la route. Alors là, c'est le thème prévention routière qui marche à plein actuellement. On a réussi quand même à avoir l'oreille du Sénat et défendre le point de vue motard. Donc la commission au Sénat, la commission de l'aménagement et du territoire, a convoqué la FFMC le 18 février dans le cadre d'une table ronde pour la cohabitation partager la route.
C'est une forme de reconnaissance quand même.
C'est
de
une FFMC, forme de
ça.
Reconnaissance. Oui. Donc, et c'est justement bien pour montrer que plus nombreux, plus forts. Et
après, pour autant, sur le partage de la route, c'est toujours très très compliqué. Hein. Visiblement, que ce soit voiture, vélo, alors surtout en ville, on en parle beaucoup du vélo.
Vélo-piéton, hein. C'est une
le
nouvelle
guerre.
Le
piéton et la moto, oula.
Oui. En moto, t'as... Enfin, moi, je suis conditionné quand même, de par ma formation à FDM, à laisser passer les piétons. Les vélos, c'est plus difficile, parce qu'ils conduisent vraiment comme des salopes. Mais enfin bon, c'est pas grave.
Ah, il y a pire encore, c'est les trottinettes.
Oui.
On les a oubliés, ceux-là.
Mais ce qui est intéressant avec les trottinettes, c'est qu'ils achètent tous des trottinettes à petits trous. Et vu les nids de poules qu'il y a sur la route, très vite le problème sera réglé, il n'y aura plus de trottinettes.
Ils arrivent à se casser la gueule tout seuls, en fait.
Ah ben c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accidents.
Donc, profitez justement des municipales pour poser des questions à vos candidats, souligner les arguments que ça ne représente que 2% du trafic, que le temps de trajet est réduit, donc la pollution aussi. En plus, pour une fois, c'est une bonne nouvelle, la mortalité des motards a diminué en 2025 par rapport à 2024.
Alors que le nombre de motos avait. Enfin, le nombre d'immatriculations, enfin, je ne sais plus le terme exact, mais
il est à peu près constant.
Hein. Ouais.
Donc, là, je crois qu'on peut passer un morceau.
Tu veux faire
musique.
Une petite pause? Alors, on fait une petite pause et après, on parlera de la FFMC. Hein,
oui.
À tout de suite. Yeah. voit qu'on arrive pas loin de la fin de l'émission. Ouais, la musique commence à s'énerver. Et t'as vu, le mec, il a bien poussé ses rapports aussi. Hein. Donc, on est toujours avec Jean-Yves. Et puis, donc là, on prend des nouvelles de la FFMC.
Bah oui, la FFMC et la Mutuelle des Motards. Puisque, justement, il y a les assemblées régionales de la Mutte, là, au mois de mars. Alors, bon, vous voyez, sur les... excusez-moi. J'avais allé à chat, puis c'est à personne, il y a beaucoup de poils. Donc, c'est l'Assemblée régionale. Alors, si vous voulez vous marrer, que vous faites partie de la FFMC, venez-y, parce que je compte y mettre ma merde. Hein. Alors, pourquoi j'y mettrais ma merde? Eh bien, tout simplement parce qu'on a eu l'Assemblée nationale de la FDM, donc l'Association pour la formation des motards, et on s'est aperçu, en discutant avec les gens de différentes régions, que, par exemple, en PACA, 40% des stagiaires AFDM ont fait un stage AFDM aiguillé par la mutuelle. Et dans le Nord, devinez le chiffre de...
Zéro.
Zéro, exactement. Ah ouais. Alors, il y a une obstruction apparemment systématique, parce que ça fait quand même 6 ans que ça dure. Donc, ça risque d'être un peu chaud.
Moi, je dis qu'il faut engager le dialogue.
Oui, bien sûr. Il faut engager le dialogue, mais il faut bien montrer que...
En fait, ça va dans un même sens, donc c'est un peu idiot.
Bah ouais, c'est idiot.
C'est carrément idiot.
En plus, tu connais la marguerite avec les pétales. Vas-y, rappelle-nous ce que ça veut dire.
les pétales de la marguerite, c'était au départ la Fédération française, excusez-moi, des motards en colère.
C'était quoi comme moto?
C'était une 3 temps. Donc, c'est créé et très vite, on s'est aperçu que la formation du permis de conduire, c'était complètement n'importe quoi. Qu'il y avait des commissions qui pouvaient faire l'éducation jeunesse, justement, au partage de la route dès l'école. Enfin bref. Donc, il y a des associations qui se sont greffées comme les pédales d'une marguerite avec le cœur. La FFMC, et il faut toujours savoir que la mutuelle des motards n'est qu'un pétale, c'est pas le cœur de la marguerite.
Oui, non. D'accord.
Voilà, donc il y a effectivement une cohésion dedans. Quoi.
Donc.
Après, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont plus d'accidents en PACA et c'est pour ça qu'on les oblige à prendre des stages.
C'est ça. Possible.
Non, mais après, il y a aussi une chose, c'est que bon, le permis est ce qu'il est, mais après, c'est vrai que s'il y a la possibilité pour. Certains, on n'est pas tous égaux, certains ont besoin d'un peu plus de formation, de plus de connaissances, de plus de pratiques pour effectivement se sentir à l'aise et du coup être à la fois moins dangereux, c'est pas moins dangereux, mais prendre moins de risques sur la route.
Leur taux de survie.
C'est, on va dire comme ça, mais parce que c'est...
Et en plus, quand tu suis un stage à FDM, tu as une réduction sur ta prime d'assurance de la mutuelle.
Sympa. Donc, ça peut s'expliquer et c'est bien.
Uniquement sur la garantie tiers. Avant c'était à vie, maintenant c'est à discuter.
Mais la FDM, l'avantage aussi, c'est la formation continue. C'est-à-dire que des fois, on prend de mauvaises habitudes et parce qu'il y a la formation du permis de conduire et puis après, il y a la formation continue. Et ça, c'est important. Moi, j'ai appris à conduire, il n'y avait pas de rond-point, tu vois.
Oui, j'étais en train de penser à ça en disant qu'entre le moment où tu as passé le permis et la circulation aujourd'hui, il y a quand même une évolution spectaculaire, notamment avec tous les pièges qu'on nous met, les priorités à droite qu'on a réinstaurées depuis quelques années et il y en a partout.
Il y a même des panneaux de limitation de vitesse maintenant.
Ouais, des ronds-points, des chicanes, des dodanes.
Pour parler formation continue, dimanche de 10 à 17 heures, les animateurs ont une formation pour se remettre à niveau et pour préparer la saison parce que nous-mêmes, animateurs de l'FDM, on se remet en question et on se reforme. Donc, de toute façon, dans votre vie professionnelle, vous suivez des formations.
Bien sûr.
La vie de tous les cours, c'est pareil.
Tout à fait, ouais. C'est quand le prochain stage? C'est bientôt, non?
Le prochain stage, c'est fin mars.
C'est fin mars. Pour ceux qui veulent en savoir plus...
Je crois qu'il est déjà plein. Regardez d'ailleurs.
Il y a d'autres sessions, de toute façon.
Oui. Ouais.
Pour ceux qui veulent en savoir plus, dans le calendrier Kikinkou, à la page 37, il y a une présentation de la FDM et des différents stages qui sont proposés. Hein, notamment, il y a le stage de perfectionnement, le stage évolution, le stage duo, etc.
Etc.
Et puis, on a les coordonnées pour en savoir plus et pour s'inscrire.
Et pour s'inscrire. Un truc aussi intéressant, c'est que actuellement, je ne sais pas si vous connaissez De Roulab. C'est plus ou moins appuyé avec une université de, je ne sais plus dans quel coin, et la mutuelle des motards. Et ils font un sondage sur l'intérêt que vous auriez à rouler à l'E85. Alors moi, personnellement, il y a longtemps que je roule à l'E85 sur ma moto.
Hors la loi.
Je suis hors la loi parce que effectivement j'ai utilisé un kit finlandais qui a l'avantage de mesurer le taux d'alcool dans le carburant.
Donc l'intérêt d'utiliser du E85, c'est de le payer 5 fois moins cher que c'est ça.
Deux fois, c'est déjà pas mal.
Donc, ouais, mais t'en as pas partout du E85.
De plus en plus.
Justement, tous les petits supermarchés, les.
J'allais dire dans les stations, effectivement, de centres commerciaux, maintenant, tu as une pompe E85.
Et même dans les petits villages.
Mais une fois que tu as installé le kit, tu peux mettre que ça ou tu peux mettre aussi du sans-plomb ?
Ce kit finlandais est intéressant parce que tu peux rouler avec n'importe quelle proportion d'alcool et d'essence.
Et il faut un diplôme d'ingénieur pour l'installer ou...
Moi, j'ai fait un tuto sur le site Rocket pour montrer à mes copains comment on monte un kit.
C'est compliqué ?
Ça m'a pris 1h30 en faisant le tuto.
D'accord.
Donc en photographiant, en expliquant, etc.
Et maintenant, il arrive quand même à mettre la Rocket 3 sur la roue arrière. Fastoche, tu vois.
Donc, je vous encourage fortement à répondre à ce sondage, parce que plus on sera nombreux à dire c'est utile pour le motard.
Et pourquoi tu dis, alors moi je fais le candide, hein, pourquoi tu dis pirate ? Pourquoi on n'aurait pas le droit de rouler à l'E85 ?
Alors justement,
c'est à cause de l'alcool.
D'abord,
nous on la boit. Mais
dans la législation française, les voitures ont le droit au kit 85.
Oui, tout à fait, c'est pour ça que je pose la question.
Pas les motos.
Ah, pas les motos. Mais pourquoi pas les motos ?
C'est parce qu'il y a encore un primitif dans une administration quelconque qui est au courant de rien, puisque de toute façon, ils légifèrent sur des trucs qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est un standard. Donc je suis hors la loi parce que, d'une part, mon kit, il n'est pas reconnu. Et d'autre part, normalement, ça doit être installé par un installateur agréé.
Ah ouais.
Alors, il y en a un en France, il s'appelle Thornbike, c'est dans le sud, mais c'est un margoulin.
Pas quand encore. Tout se passe là-bas.
Parce que le mec, il achète des kits, des kits comme le mien.
Ouais, hein,
les kits comme le mien, c'est pour les V8 américains. Donc, il y a 8 canals, il y a 8 commandes. Et lui, il coupe les fils supplémentaires et puis il s'arrange pour te filer un kit qui ne peut alimenter
ça
que deux cylindres,
pirate,
trois cylindres. Il vit comme ça. Donc,
Il met son nom dessus et il gagne 50% en plus.
Et donc, pour couper les voies supplémentaires...
Et tu as le droit de nous donner à peu près une fourchette d'un tarif sur un équipement comme celui-là ?
Ça varie entre 400 et si tu veux un kit sport pour donc augmenter la puissance, c'est 600.
D'où la roue arrière.
Ça veut dire que c'est intéressant que si tu roules régulièrement et que tu fais pas mal de bornes.
En 6 mois, moi je l'ai amorti.
Ouais, mais c'est parce que tu roules tout le temps.
Il fait 20 000 km en 6 mois.
Je fais 15-16 000 par an, pas plus. Donc,
ça veut dire que sur 10 000 bornes, tu
l'amortis. Tu l'amortis. En plus, tu peux même augmenter la puissance.
Voilà.
Ça doit poser problème à la législation, tu vois.
Et concrètement, si tu te fais choper avec ça alors que c'est
en prison.
Formellement illégal,
il va en
tôle. Comment ils vont démonter ta moto pour voir si t'as le boîtier
En cas d'accident, éventuellement.
Après, c'est pour ça que je suis à la mutuelle des motards. Je sais que je pourrais discuter avec eux. Si j'étais au Crédit Agricole ou au Crédit Municipal.
Tout le monde sait que les agriculteurs roulent à l'huile
de colza.
L'huile de colza.
Exactement.
L'huile de friture.
Alors, une dernière nouvelle aussi, c'est bientôt Pâques.
Oui.
Hein. Alors,
je ne sais pas pourquoi tu dis ça en nous regardant.
C'est la fête des cloches.
Ouais, c'est ça.
Non, c'est la fête des nids de poules.
Ah oui.
Alors, il y aura l'opération nid de poule un peu avant Pâques.
Où on entoure.
Tous les barrières.
Tout à fait.
Et donc, on montre aux municipalités qu'effectivement, elles ne font pas leur boulot. Je me souviens que l'année passée, il y avait devant le grand stade Pierre Mauroy, il y avait des trous, mais énormes. Ils ont bouché dans les 2 semaines. Mais maintenant, ils se sont reformés. Donc,
bah oui, c'est forcément.
Quand tu mets du sparadrap sur un substrat qui est pourri, bah, t'as toujours un truc pourri.
Alors, comme on est diffusé à partir de Radio Campus, et que Radio Campus, c'est sur le campus universitaire de Lille, et que toi, comme moi, enfin, toi, t'es un ancien universitaire, et moi, je suis toujours. Tous les jours, je passe donc à l'entrée des quatre cantons, devant la station de métro, et il y a un énorme nid de poule qui doit faire 1 mètre sur 50 cm
de profond.
Bien, une quinzaine. mais tu rigoles, mais il fait presque 20 cm de fond. Voilà, on aperçoit les anciens pavés de la route qui passaient par là dans les années 50. Et je t'assure que la nuit, un motard passe là-dedans, c'est la chute assurée.
Mais ça
fait 6 mois qu'il est là, ce trou.
Donc, comment on peut faire? Alors, comment on peut participer
à
cette manifestation?
Noter les emplacements. Il y a un site internet de la FFMC qui permet de compiler tous ces emplacements et puis participer à l'opération Nid de Poule, c'est-à-dire qu'on va avec quelques motards pour assurer la sécurité. On y va avec des bombes de peinture et puis en général on réussit à faire venir un
élu.
Journaleux.
Donc, ah ouais,
ouais. Non, les élus,
oui,
ça, c'est fini. Comme ça.
Oui.
Surtout que c'est eux qui sont plus ou moins responsables.
C'est quand ça c'est en PAC, c'est ça.
C'est à PAC.
À PAC.
Voilà,
d'accord.
Vous pouvez déjà collectionner tous les nids de poules que vous voyez sur votre chemin.
On commence déjà à regarder.
Ça marche. J'entends, ça y est, là, c'est le générique de l'émission, ça y est, c'est fini, ça passe vite, hein. Qu'est-ce que ça passe vite.
Oui.
Donc, c'était le premier week-end du mois de mars, donc Ch'ti Géant nous a présenté le sommaire du Motomag. Jean-Yves avec donc ses actus, merci Jean-Yves, c'est vachement intéressant, on pourrait l'écouter parler pendant des heures, n'empêche. Hein.
C'est vrai, tu tousses pas trop.
Pourquoi tu tousses, dis donc.
C'est ça.
Albert, merci de ton témoignage sur la douce en triomphe et sur le graissage de chêne.
Tout à fait, ou le village, ça dépend. Mais voilà.
Merci Anis de nous rejoindre maintenant.
Hein. Pour le 5 dernières
minutes, bienvenue,
c'est le meilleur.
Je vous rappelle que nous serons au Salon de la Moto à Douai, donc le Salon de la Moto des Hauts-de-France à Douai, les 14 et 15 mars, qu'on aura un stand, que vous pouvez venir nous rencontrer, vous pouvez même venir parler dans le micro.
Et venir avec vos enfants.
Voilà, et venir avec vos enfants parce qu'il y aura un quad à gagner.
Et pour les motards, nous faire la bise.
Voilà, et merci à Laurent pour cette programmation musicale de qualité. Allez, à dimanche prochain, salut les gars.
Bonne fin de week-end.